On ne laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné 7. On est de retour sur RKS et tous les trois. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Salut tout le monde.
Comment vous allez aujourd'hui?
Bah écoute, top.
Nickel.
Donc vous êtes chaud, on est prêt pour partir sur une heure de musique et de film.
Une heure, ouais. Si on arrive à se tenir à une heure, ça serait pas trop mal.
On va réussir à faire une heure.
On va réussir à tenir.
C'est le défi du jour. Voilà. C'est le défi du jour. On coupe très clairement à 20h. C'est fini.
Donc si à 20h ça coupe sur une phrase de Marvin ou de Jad, c'est normal. Si, on a dit on fait une heure,
on a
un timer, on rend l'antenne. Il y a Flo et Anya qui attendent derrière, on rend l'antenne direct. Du coup, tenir une heure, mais tenir une heure sur quoi, Marvin?
Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au meilleur film de Ridley Scott, donc réalisateur en dents de scie. Donc on va s'attaquer à ses quatre meilleurs films, donc le Gladiator, Blade Runner, Alien, le 8e passager et Thelma et Louise.
Donc on a fait une petite sélection, on s'est tenu à 4 pour pouvoir tenir les 1 heure. Et on va attaquer tout de suite avec le premier film qui est un film qui tient à cœur à Marvin.
Tout à fait, donc on va commencer par Blade Runner qui est depuis un petit moment dans mon top 5 de mes films favoris. Donc je suis très content d'en parler, j'aurais pas mal de choses à dire dessus. J'espère que vous aussi les gars.
Oui. Je pense qu'on peut faire une heure dessus, mais ouais, on va essayer de se retenir.
On va essayer, bon.
Et bah tout de suite sur RKS et sur Ciné 7, on attaque tout de suite avec le 6e épisode spécial Ridley Scott.
C'était donc le thème de l'amour composé par Vangelis, donc le grand Vangelis. Donc Blade Runner, donc sorti en 82, réalisé par Ridley Scott. Une œuvre qui a été adaptée du livre donc, de Philip K. Dick, donc Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Faut savoir que de base, le roman ne comporte pas le terme, par exemple, Blade Runner. Ça, c'est un truc à savoir du film. Ça vient en fait d'une autre BD qui était sortie un petit peu avant, donc qui a été écrite en parallèle par Dan O'Bannon, qui a fait Alien, on va dire, enfin qui a créé les costumes d'Alien, entre autres. Donc du coup, en termes d'acteurs, on a Harrison Ford, Sean Young et Rutger Hauer dans les trois principaux acteurs, on va dire, récurrents dans le film, donc qui interprètent respectivement Rick Deckard, Rachel, donc une réplicante, et Roy Beatty, qui est le réplicant, on va dire, l'antagoniste principal. C'est ça, non ? Ça me
fait
ça.
Rachel, une réplicante, on a donc notre premier spoil de la journée.
c'est pas un spoil.
Bah,
c'est...
si, quand même.
Trouves-tu ?
Bah, au départ, on le sait
c'est
pas.
C'est un des enjeux du film, quand même.
Ouais, ça arrive vachement vite dans le film, quand même. Au bout de 15 minutes, on le sait, quoi.
Bon, c'est pas grave, continue.
Non, mais là, vous m'avez coupé, les gars. Là, vous m'avez coupé.
Oui, c'est vrai qu'il y en avait un autre de réplicant à pas annoncer, mais quand même.
Ouais, bon. Putain, vous m'avez coupé, les gars.
Mais du coup, la question demeure, est-ce que Deckard est un réplicant ? Parce que certains disent que oui, certains disent que non.
Là, par contre, là, tu viens de faire la merde.
Ouais, là, tu
là par contre, là, t'as niqué le truc.
Ouais. C'était pour qu'on débatte un peu.
Bon, on en reviendra après. Donc, Blade Runner, de quoi ça parle, pour ceux qui l'ont pas vu ? Donc, c'est donc un film d'anticipation de science-fiction qui va se passer en 2019, donc à Los Angeles. Donc, en 2019, qu'est-ce qui se passe à Los Angeles ? Enfin, sur Terre, généralement. C'est qu'il n'y a plus assez de place pour les humains, donc on est envoyé sur la Lune. Donc des réplicants ont été créés par une organisation pour pouvoir, on va dire, bâtir des édifices sur la Lune, faire des travaux dangereux de manutention. Et donc le but, en fait, de l'entreprise, c'est de faire migrer le plus de terriens sur la Lune. Et évidemment, c'est les personnes les plus aisées qui vont avoir accès à la Lune, et les personnes en situation de précarité vont rester sur Terre. Et on va voir que c'est un monde assez, assez dystopique, assez, toujours très peu d'éclairage, très noir, très pollué, avec beaucoup de bruit, de brume. C'est un des premiers films, en fait, où on va nous montrer un futur... pas rose, justement.
D'habitude, dystopique.
Dystopique. C'est ce que j'ai dit. Dans la plupart des films, en fait, quand on parle de futur, souvent, c'est bien beau, on a des voitures volantes, tout est beau, tout est clair, tout est droit. Et là, justement, en fait, Ridley Scott, il nous montre, en fait, un futur qui pourrait, en fait, arriver. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle ça un film d'anticipation, parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver bien plus vite. C'est comme l'histoire des réplicants, qui, voilà, une intelligence artificielle, et là, on est en plein dedans en ce moment. Donc, voilà. Pour commencer.
Ouais. Oui, une dystopie, t'as raison. C'est vrai que c'est un des premiers films qui nous montre ça. Moi, perso, j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans. Pas parce que c'est une dystopie ou des choses comme ça, c'est que sur le thème de l'histoire et les enjeux de la narration, j'ai eu du mal à les capter assez rapidement. J'ai mis beaucoup de temps dans le film à aller les chercher, à aller les trouver pour pouvoir avancer avec le héros et l'histoire.
Donc, en gros... t'es pas arrivé à comprendre directement le speech, même au début, parce que tu vois, au début, quand t'as le film, t'as un écran noir où t'as déjà un premier texte où il va raconter un peu ce qui s'est passé.
Ouais, l'histoire donc, des réplicants et tout
voilà,
ça.
Voilà, qu'il y en a qui ont été évadés, qui ont pris un vaisseau pour aller sur Terre, pour rencontrer leur créateur. Moi, je l'ai compris assez rapidement. Après, c'est possible que si on est... Enfin, en fait, il faut être super attentif dans Blade Runner, parce qu'il y a... Voilà, il y a pas mal d'indices cachés, ou même des fois des sous-entendus. Ne serait-ce que, par exemple, le premier plan, qui est en fait un plan sur Los Angeles, avec des flammes aux alentours, et on va voir un œil. Et pour ceux qui ont un peu prévu le film, ou qui comprennent un peu Blade Runner, en fait, l'œil, c'est le miroir de l'âme dans le film. Il y a vraiment un gros parallèle qui est fait avec tout ce qui est avec la vue, qui symbolise en fait tout simplement l'humanité.
Oui, avec les tests pour savoir si c'est un réplicant.
Voilà,
ou non,
le test de Von Kampf.
Ouais, effectivement. Non, mais ça, après, l'enjeu principal de l'histoire, de la traque des réplicants, et avec par les Blade Runner et tout ça, ça allait. Mais c'est ce qui soutenait le tout, quoi.
La cause.
La cause, déjà, principalement. Pourquoi tous les traquer ou pas. Et le but même du film, quoi. Quel était le message qu'il voulait nous passer ? Ça, j'ai eu un peu du mal à aller le chercher.
Bah ça, si je peux du coup, on va dire t'expliquer brièvement. Du coup, donc on a du coup les réplicants, donc un groupe de 6 qui se rebellent. Et en fait, la question que Blade Runner se pose, c'est qu'est-ce que l'humanité ? Est-ce que en fait, on a besoin d'être fait de chair et d'os pour pouvoir vivre, ressentir l'amour, la haine, la tristesse, la compassion ? Et en fait, on va nous montrer en fait que ces réplicants-là sont en fait capables de vivre bien plus longtemps, parce que du coup, à savoir que le créateur leur a infligé que 4 ans de vie. pour qu'en fait il puisse pas se développer plus, parce que du coup au-delà de 4 ans il pourrait en fait l'intelligence pourrait encore plus se développer, devenir très autonome, voire du coup dangereux, parce que du coup ils ont été créés pour des travaux de manutention sur la Lune, donc ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus intelligents que les humains, mais ils sont assez bridés puisque du coup ils sont enfermés dans des espèces de camps de concentration sur la Lune, enfin ça c'est pas dit mais c'est dit dans le livre, donc après bon. Mais du coup voilà, l'enjeu principal en fait c'est est-ce qu'on peut pas vivre en fait avec eux, est-ce qu'on peut pas juste être en cohabitation avec des personnes qu'on a créées de toutes pièces, quoi, parce que du coup l'homme est dans cette approche du film est considéré un peu comme Dieu, surtout le créateur, parce que du coup voilà il va créer une nouvelle espèce.
C'est très philosophique et très existentiel, mais c'est un thème qu'on retrouve beaucoup, je trouve, chez Ridley Scott. Tout à l'heure, tu parlais du fait que ce soit très noir. En fait, c'est un film qui est considéré comme néo-noir. Donc, c'est la relève du film noir d'époque dans les années 20 jusqu'aux années 50. Et en fait, c'est un thème où on a des compositions très contrastées, des images très fortes et des angles de prise de vue assez décalés. Donc, on le voit souvent dans les grands plans de la ville ou des personnages. Et c'est des films qui peuvent être assez violents, où il y a toute une dimension onirique, donc c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans Blade Runner. Et c'est également un précurseur du genre cyberpunk, donc des mondes ultra développés avec des villes qui grouillent de monde et pas mal de simulations, donc on a tout un travail sur la lumière, sur le néon, et tout un rapport aussi à la technologie de pointe, couplé à des enjeux sociaux. Et en fait, je trouve que ça, quand même, ça amène une remise en question, en fait. C'est très philosophique, comme j'ai déjà dit. Ça invite à se poser la question de l'humanité, de qui est-ce qu'on est, nous, pour décider de qui vit ou qui meurt. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film, même si je suis rentrée un peu par la porte de derrière, parce que j'ai commencé mon aventure Blade Runner par le dernier qui est sorti, de Villeneuve. Mais je trouve que c'est quand même des beaux films, avec une très belle photographie, de très belles performances d'acteurs, et c'est assez agréable à regarder, malgré le fait que ce soit très long.
Bah, pour moi, si on doit citer, on va dire, par exemple, trois films précurseurs de la science-fiction, avis perso, du coup, on aurait Metropolis, 1927, ensuite, ça serait Blade Runner, pour moi, et après, peut-être 2001, l'Odyssée de l'espace, ou peut-être Matrix, mais du coup, pour moi, Blade Runner, en fait, il a apporté plein de films derrière lui, du coup, qui ont pris en fait la relève, donc par exemple le deuxième Blade Runner, Ex Machina, même Terminator au final ça parle d'un futur où les machines ont pris le dessus sur les humains, donc c'est un peu aussi le speech, sauf qu'à l'inverse de Terminator en fait les robots sont programmés par les humains, alors que dans Blade Runner en fait ils sont totalement conscients et ils ont
un libre arbitre,
voilà, ils ont un libre arbitre, ils font tout ça sciemment, quoi, ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Besoin de quelqu'un.
Et comme tu le disais, c'est un thème qui est très actuel avec tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle actuellement et de la robotique.
Ah bah,
parce que dans, je sais plus, c'est dans le 1 ou le 2 aussi, il y a toute la question de la mémoire, de la conscience par la mémoire, par les souvenirs.
Dans le 2 ?
C'est dans le 2, mais dans le 1,
dans
c'est...
Les deux.
Ah, dans les 2, ok. Mais oui, c'est des thèmes qui sont très actuels et qui rentrent... qui ont vraiment apporté, je dis pas que le livre et le film ont apporté ces questionnements à la société actuelle, mais ils ont aidé à ils faire comprendre. Ouais,
c'est bah, ça. Surtout, c'est qu'en fait, les répliquants, en fait, on a deux classes. On a du coup, on a les hommes qui sont plus des travaux de manutention, donc c'est ce qui arrive avec les robots du coup qui portent des charges lourdes, et les femmes, dans le film, ça s'appelle des modèles de plaisir, donc tout bonnement, c'est des prostituées. Et maintenant, de plus en plus, on voit tout ce qui est en fait des poupées sexuelles et tout. Enfin, en fait, c'est. Moi, je trouve que. Voilà, le film il est sorti il y a plus de 35 ans, et en fait il était déjà super avant-gardiste sur ces thèmes, quoi. Des choses que maintenant ça paraît en fait super fluide et tout, c'est des choses qui sont logiques.
Plus ou moins.
Non, mais bon, ouais. Ils sont d'actualité, alors qu'à l'époque, pour penser à ça, d'ailleurs il a fait un gros flop à la sortie, que ce soit côté critique ou côté... financier box office, il a rien remporté en Oscar, et puis derrière c'était pas forcément, enfin tout le monde disait que c'était un film assez long, assez noir, comme elle a dit déjà, du coup assez noir, il se passait pas grand chose, la musique était assez lente, mais après au fil des années il a instauré un peu, il a pris le rang de culte en termes de films de science-fiction.
Après, juste je termine, on parlait donc des femmes, donc c'est vrai que c'est assez connoté, quoi, c'est assez négatif la vision des femmes qu'on a dans Blade Runner, mais il y a quand même le personnage de Rachel qui sauve un peu le truc, parce que c'est une femme, bon. Elle est un peu perdue parce qu'elle se pose des questions, mais c'est quelqu'un qui va chercher des réponses, qui essaie quand même bah, d'être forte, quoi, d'avoir du caractère, de s'imposer et tout. Et en fait, le thème de la femme, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les films de Ridley Scott, on en parlera au fur et à mesure.
C'est vrai.
Mais je pense quand même que c'est un réalisateur assez féministe.
Oui, je pense que ouais, il avait des choses à dire sur, bah, comme on a dit, on verra sur les prochains films, mais c'est vrai que
tu viens de me dire. Il y a des beaux rôles féminins.
Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, en parlant de rôles dans Blade Runner, les trois acteurs principaux, ils sont impeccables dans leur rôle. Harrison Ford, rien à dire, il le joue très bien. Même s'il a eu du mal à se détacher de Han Solo, parce que forcément, ouais, c'était à peu près la même année, 82, 80, 77. Et après, ouais, du coup, Sidney Young qui joue du coup Rachel est très, comment dire, très classe en fait. Ouais. Quand elle arrive dans son premier plan, elle a la cigarette à la main, elle a une espèce de chouette hibou sur son épaule, avec un espèce de soleil derrière, une robe très classe, très noire avec les talons. Enfin, en fait, ça montre très bien la classe que peut avoir.
Et on retrouve encore les plans. Face au soleil que Marvin aime beaucoup.
Ouais. Bah, de toute façon, Blade Runner, c'est franchement, en termes de photographie, c'est vraiment c'est magnifique, c'est bluffant. Le 2, comme Jade l'aime bien, forcément, en termes de cinématographie, il est beaucoup plus beau, mais le 1, il est pour 82, il est impeccable.
Beaucoup plus beau, peut-être, il y a des très beaux plans, mais il n'a rien inventé de nouveau. Quoi. Je pense que Blade Runner, au moment où il est sorti,
il a rien inventé.
C'était assez exceptionnel. Ah oui.
Les plans sur Los Angeles de haut, enfin. Quand ça tourne, en fait, ça va faire voilà, sur les bâtiments et tout, avec la musique de Vangelis, c'est magnifique. Moi, ça me donne des frissons à chaque fois que je regarde ça.
Oui.
Franchement. Et pour finir sur les acteurs, donc Rutger Hauer qui joue du coup le Nexus 6, donc Roy Beatty, qui est, on va dire, presque l'acteur principal. Quoi. Enfin, même avant Harrison Ford, je trouve. Enfin,
il arrive assez tard pour toi.
Ouais. Il arrive assez tard, mais en fait, il a un développement de personnage, Roy Beatty. Enfin, pour ceux qui ont vu le film.
Il a une montée en puissance quand même assez incroyable. Bah, ça redonne un peu de souffle dans le film.
Ouais, pour moi, sûr. Il crève l'écran. Dès qu'il arrive, il prend la vedette sur Harrison Ford. Et d'ailleurs, malheureusement, en fait, c'est un acteur qu'on n'a pas beaucoup vu dans d'autres films, que j'aurais bien voulu voir dans d'autres films, peut-être différents, parce que c'est vrai qu'il a joué du coup à peu près toujours, enfin, pas les mêmes rôles, mais. Voilà, mais ouais, en plus il est décédé il y a, je crois, en 2019, donc en fait la même année que le film Blade Runner, donc on va dire c'est peut-être le destin.
C'est sûr. Peut-être,
je ne sais pas.
Et puis rien que pour sa scène finale,
voilà, sans spoiler, hein.
vaut vraiment le coup. Et on sait que c'est une scène pareille que Marvin connaît par cœur.
Les larmes dans la pluie, c'est magnifique. Ça.
Si vous connaissez la tirade dans Astérix Mission Cléopâtre, bah, c'est un peu la même chose, mais
en
pas
mieux.
Tout à fait. Tout à fait.
En du mieux. Coup, ouais, monologue, le monologue qu'on a vu, qui a été plusieurs fois cité dans les écoles de cinéma, par exemple. On va la passer d'ailleurs, si ça te dit.
Oui, la tout musique. À fait, bien sûr.
Normalement, tu l'as, normalement, Kéliane.
Mais je l'ai, mais bien sûr que j'ai tout, moi, ici.
Eh bah, allez.
C'est la caverne d'Ali Baba, moi. En musique, mais j'ai tout, moi. Et ce que vous voulez, je vous le sors.
On va se passer ce chef-d'œuvre.
Et du coup, c'est quoi le nom du chef-d'œuvre, Marvin ?
Eh bah, je pense que c'est Tears in Rain.
Exactement.
En anglais, donc toujours composé par l'excellent Vangelis.
Et bah allez, à tout de suite. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark. 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears.
Thank you.
Et c'était la chanson Now We Are Free, composée par Hans Zimmer pour le magnifique peplum de Ridley Scott, qui est autre autre que Gladiator. C'était pour le coup, on a enchaîné avec un des films préférés de Marvin et on enchaîne avec un des préférés des miens.
Ça tombe bien.
On est un peu dans le thème aujourd'hui aussi. Il en manque un pour Jade. Je crois pas qu'on va l'avoir aujourd'hui.
Non, on l'aura plus tard.
Mais ouais, c'est pour moi, c'est un des meilleurs péplums du cinéma. C'est il y a tout ce qu'il faut, la romantique, l'esprit de rébellion, un arrière-fond historique qui est plus ou moins malmené par le scénario, mais qui reste à peu près vraisemblable. Et c'est avec un ancien général de la Légion romaine finir gladiateur juste pour se venger de l'empereur. On n'en a pas eu beaucoup dans l'histoire, mais globalement, il y a de la vraisemblance, il y a beaucoup de vraisemblance, et c'est ça qui me plaît. Tout ce qui est l'esprit aussi de rébellion sur l'autorité actuelle et l'envie de se venger, de défendre son honneur, ce genre de choses-là, c'est vraiment incroyable dans ce film. Et puis, il y a un casting qui est monstrueux.
5 étoiles.
5 étoiles, là, clairement. On a quelques noms, Marvin ou Jade?
Russell Crowe, déjà, dans le rôle de Maximus. Pour moi, c'est le rôle de sa vie.
Ouais.
Il n'aura jamais fait mieux, et déjà, même juste physiquement, il est au top de sa forme. Il avait vraiment la carrure d'un gladiateur, tout simplement. Et Joaquin Phoenix, je sais pas si on dit Joaquin ou Joaquin. Bon. Qui interprète Commode, donc le fils de Marc Aurèle.
De Marc Aurèle, exact.
Fils tyrannique.
Et qui va devenir empereur. C'est d'ailleurs pour ça que la querelle se lance.
Bah, c'est quoi le speech du film, Kylian?
Le speech du film, globalement, Maximus est un général de l'armée romaine, envoyé, si je me trompe, en Allemagne ou quelque chose comme ça.
En Germanie, je crois qu'ils disent à l'époque.
C'est ça. Donc en Germanie, général victorieux par d'autres conquêtes et par cette bataille en Allemagne, aux côtés de Marc Aurèle. Et son fils Commode les rejoint en campagne. Et en fait, Commode, en arrivant en campagne, après la victoire romaine, apprend que lui, qui est le fils de l'empereur, donc devrait avoir le trône. Mais l'actuel empereur Marc Aurèle décide de donner le trône à Maximus, donc le général victorieux. Donc là, bien sûr, conflit d'intérêts et conflit d'honneur, parce que le fils destitué, alors qu'il devait être à la tête de l'État, va décider d'assassiner son père, d'assassiner la femme et l'enfant de Maximus, parce que lui, à la base, Maximus ne veut pas devenir empereur. Il a envie d'une chose, c'est de terminer la campagne et de rentrer chez lui tranquillement dans son petit domaine dans le nord de l'Italie. Et en fait, sa femme et son enfant vont finir empalés et brûlés au bout d'un crucifix. Et donc, à partir de ce moment-là, il va avoir qu'une seule envie, c'est de se venger de Commode, quoi.
De toute façon, on voit tout le film tourne autour de la vengeance, quoi.
C'est ça.
C'est une vengeance pure et dure. Il veut se venger, il veut pas forcément le... Moi, je trouve que tout le monde pense qu'il veut absolument le tuer. Moi, je pense pas ça. Si je trouve, il veut l'humilier. Il veut lui montrer en fait que on va pas rentrer directement dans les détails, mais qu'en fait lui, il a conquis le public, Maximus, et que en fait il préfère Maximus à Commode, et qu'en fait c'est ça sa victoire, c'est pas forcément le tuer.
Ouais, bien sûr. Et puis au départ, avant l'esprit de vengeance pur et dur dans l'arène, enfin on a tous l'image, ceux qui l'ont vu, on a tous l'image de la confrontation entre les deux. Il y a aussi un esprit d'honneur, parce que Maximus, qui est un général romain, se retrouve en tant qu'esclave, attrapé en tant qu'esclave. À la base, c'est pas lui qui décide, parce que beaucoup de gens pensent que c'est lui qui a décidé de devenir gladiateur pour pouvoir se venger. Non, il finit esclave, et par ses talents au combat, est sélectionné en tant que gladiateur, qui était donc des esclaves ou des prisonniers. Et donc au départ, il y a juste le désir de se libérer et de sauver son honneur, puis ensuite il a l'opportunité de se venger, en bonne et due forme, quoi.
C'est vrai.
Je pense qu'on peut noter quand même le grand écart que fait Ridley Scott sur ce film. Enfin, il y a 4 films dont on va parler aujourd'hui. Les 4 films n'ont rien à voir. Là, on parlait de science-fiction tout à l'heure. On débarque sur un péplum. Et le pire, c'est qu'il fait un grand écart. Il change totalement de style. Et il arrive quand même à faire des pépites sur les deux. Ouais. Ça, c'est incroyable.
Tout à fait.
C'est encore une fois un film qui est très soigné esthétiquement. avec une belle photographie, de belles séquences. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve chez ce réalisateur, c'est qu'il fait des choses très vivantes, en fait. On regarde le film et on est immergé dedans dès la première seconde. Et sinon, par rapport aux acteurs, de très belles performances. Et en fait, par rapport à Joaquin Phoenix, par rapport à son personnage de Commodus, c'est vrai que tout part, je pense, enfin c'est sûr, d'un manque de reconnaissance. Parce qu'il a de la reconnaissance ni de son père, ni de sa sœur, ni de finalement de son peuple, en fait. Et tout ça, c'est la cristallisation, en fait, de tout ce qui découle du film, quoi.
Bah déjà, c'est pas enfin, s'il deviendrait empereur, ça serait pas un empereur courageux, parce qu'on voit bien, en fait, qu'il, lui, il fuit le combat. Mmh. Sauf que, bah, si on veut, enfin, un empereur, ça doit ne pas avoir peur et se battre corps et âme pour son peuple, le défendre coûte que coûte. Et lui, en fait, bah, on voit qu'il, voilà, il se cache, il arrive juste après le combat, il remercie tout le monde, enfin, voilà.
Oui, et puis dès le départ, on se rend compte que Commode n'est pas apprécié du peuple, même avant que son père meure, quoi. On le sait, on s'en rend compte très vite qu'il n'est pas fait pour être dans le cœur du peuple, pour être le successeur de Marc Aurèle, qui était dans le film, qui est un empereur qui est très apprécié.
Mais je crois qu'il a existé, non ?
Les deux ont existé.
Ouais.
Il me semble
Commode, c'est sûr, ça j'avais vu des photos.
Les deux ont existé, par contre, il me semble qu'ils n'ont pas un lien de parenté père-fils. Ils ont un lien de filiation. Enfin,
d'accord.
L'histoire romaine est un peu compliquée, mais en gros, tu peux adopter quelqu'un par testament. Et il me semble que c'est ça pour Marc Aurèle et Commode à vérifier. Mais en tout cas, les deux ont bien existé. On a quelques traces aussi d'un Maximus. Et après, on se souvient aussi des révoltes de Bénur et de Spartacus, quoi. C'est un peu les deux archétypes des gladiateurs qui vont se révolter pour leur liberté et contre l'autorité actuelle, quoi.
Pour en revenir à ce qu'a dit Jade sur la façon de Ridley Scott, sa vision des films, ce qui est important, en fait, pour lui, j'ai l'impression, c'est que lui, il veut vraiment soigner Val. Du coup, le décor, que tout soit palpable, on va dire ça, qu'en fait, ça soit la plus belle retranscription qu'il puisse laisser paraître. Donc, bah, très, très clairement, quand on arrive dans l'arène de Rome, c'est fait en effets spéciaux, mais c'est genre magnifique. Ça date de ça fait 20 ans que le film est sorti, il est sorti en 2000. Ça a pas pris une ride. Enfin, pour moi, c'est j'ai vraiment l'impression qu'en fait je pouvais toucher la reine de Rome.
Ouais, c'est clair. Et puis il a tellement pas pris une ride que on le voit passer à la télé 4-5 fois par an et ça fait des scores extraordinaires, quoi.
Bah, c'est vraiment son film le mieux noté, de toute façon.
C'est un des films les plus appréciés.
Déjà. Bah, le meilleur peplum, je pense que oui. Enfin, allez, Bénure. À la rigueur, mais où est dit commandement, mais ouais, sinon c'est ça serait, je pense que ce film là qui serait catégorisé comme le meilleur péplum et un des meilleurs films de Ridley Scott sans souci,
sachant qu'il a été reconnu avec 5 Oscars, il me semble, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Donc on est un peu loin de l'échec commercial de Blade Runner.
On a quoi comme Oscar? On va avoir déjà le meilleur acteur, c'est sûr, meilleur acteur pour
décor, sûrement,
décor, acteur, film, peut-être costume,
ouais,
parce que les costumes ils sont super soignés, enfin. Ouais, c'est vrai, je pense les costumes aussi. Enfin, on voit que c'est vraiment des alors comment on appelle ça quand j'ai plus le nom, les protections pour
les plastrons.
Ouais.
Les plastrons, c'est ils sont, on voit que c'est pas du polystyrène ou du plastique, quoi. On voit que c'est vachement lourd, même au niveau eux ils se déplacent assez lentement, et on voit que c'est ils ont vraiment voulu, enfin le Ridley Scott a vraiment voulu retranscrire le plus réellement possible ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Donc moi j'aime bien ça montre qu'en fait c'est soigné, enfin on va dire ces quatre films qu'on va parler, ils sont très soignés. C'est ce qui en fait d'ailleurs ces quatre films préférés, enfin ces quatre films, ces meilleurs films, quoi.
Ouais.
Après, oui, le truc qui me fait un peu rire, moi, c'est qu'il a engagé des historiens pour l'aider à l'écriture du scénario, et que finalement, il y a des choses qui paraissaient tellement improbables, mais qui se sont réellement passées, qu'ils ont décidé d'en faire fi, de dire on va pas mettre ça parce que les gens vont sortir du film, vont penser que c'est faux. Et finalement, il a embauché des historiens pour l'aider, et il en a fait qu'à sa tête. Genre, il a dit j'entends ce que vous dites, mais non.
Oui, c'est vrai qu'il y a, beaucoup d'incohérences historiques, hein, si on regarde vraiment la vraie réalité, quoi. Mais bon, comme tout film de reconstitution, même un film de reconstitution de l'époque actuelle, il y a toujours des ellipses,
des omissions.
Des omissions.
Mais finalement, à part un historien, enfin quelqu'un féru d'histoire comme toi, Kélian, il n'y a personne, je pense, qui va être sorti du film en se disant
«
Oula, c'est pas le bon casque ».
Non, mais c'est sûr, mais même moi qui ai fait une histoire et qui adore l'histoire romaine, on est à fond dedans. Le réalisme des décors, le réalisme des costumes, alors même si on sait que ça ne s'est pas passé à la lettre comme ça, et qu'on ça, on s'en rend compte.
C'est cohérent dans le film, c'est, ça suit.
Ça reste quand même assez cohérent. Il y a quelques petites choses, un bâtiment qui ne devrait pas être là, un costume qui ne devrait pas être comme ça, mais franchement, il faut vraiment être à fond dedans et vraiment être un peu tête de mule et mauvaise foi pour se dire « Non, mais en fait, ce film, il est nul, quoi. » Parce que, clairement, même s'il y a des incohérences historiques, on est quand même dedans. On sait qu'on regarde un film, on ne regarde pas un documentaire.
Bah, de toute façon, il n'y a personne qui dit que Gladiator est nul. Enfin, je pense, à la rigueur, ça ne peut pas plaire parce que le peplum, c'est un style vraiment très marqué. Donc, ça peut ne pas plaire. C'est comme les westerns, par exemple. Mais de là à dire que Gladiator, c'est un mauvais film, ça n'arrivera jamais. De toute façon, quand on prend la formule, on a des bons acteurs, une bonne musique, un bon scénario, bon costume, bon effet spéciaux, tout est soigné. Ça peut faire qu'un bon film, quoi.
D'ailleurs, est-ce que vous saviez que l'actrice qui joue la femme de Maximus, c'est la femme de Ridley Scott?
Non,
j'ai découvert ça tout à l'heure.
Non, non. Moi, je savais, c'était Marc Aurel, j'étais joué par Richard Harris, qui jouait le premier Dumbledore dans le 1 et le 2,
ouais.
Avant qu'il décède, qu'il se fasse remplacer par Michael Gambon. Mais non, je ne connaissais pas. Voilà. C'était bon à savoir.
Ouais.
Et j'ai bien aimé, c'est l'acteur, donc l'esclave, qui devient un peu le meilleur ami de Maximus.
Qui a souvent des rôles d'esclave, hein, d'ailleurs. On le retrouve dans le film Amistad ou ce genre de choses comme ça. C'est un peu l'esclave de service dans cinéma dans hollywoodien.
Blood Diamond.
Ouais, exact.
Jimon Unsoon.
Ouais, ouais. Mais qui joue très très bien.
Ouais, je l'aime bien, moi, dans ce film.
Ouais, c'est sûr.
Il joue très bien.
Mais pour revenir à ce que tu disais sur des bons décors, des bons costumes, un bon casting, on l'a dans Exodus aussi, mais ça fait pas de ça un bon film, hein, quand même.
Bah non, c'est-à-dire on n'a pas des acteurs qui cassent des barres.
Bah il y a Christian Bale quand même dans Exodus.
Ouais, mais c'est pas. Est-ce que tu retiens sa performance, quoi?
Je pense pas.
Bon, pour finir, bon film.
Ouais. Bon film.
Bon film. Bon. Très bon film. Un des films préférés de Kylian et ouais. À juste titre, hein, franchement. À juste titre.
Oui, c'est clair. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y, hein, franchement, allez-y. Et on va tout de suite continuer. On va se remettre un peu de Hans Zimmer parce que c'est une musique que vous allez connaître aussi. Elle est dans la bande originale de l'émission Apprendre ou à laisser. Je ne sais pas si vous connaissez. Et puis après, un autre film de Ridley Scott. On se retrouve tout de suite sur RKS et sur Ciné 7.
On vous a passé le thème d'Alien. Donc Alien, le troisième film dont on va parler aujourd'hui, qui est sorti en 1979 et qui met en scène un équipage qui navigue dans l'espace et qui, suite à un appel de leur vaisseau, va aller en expédition en fait pour il me semble qu'ils entendent des signaux et que du coup ils doivent aller voir ce qui se passe. Et il déboule sur un espèce de vaisseau extraterrestre avec des œufs. Bon, moi, je n'y aurais pas mis les pieds, mais ils ont l'air confiants. Et ensuite, le chaos s'ensuit, quoi. Donc, c'est un film que j'avais jamais vu. C'est le seul que j'ai vu de toute la saga. Et j'ai assez aimé. Alors, il faut dire que le rythme est particulier. Kélian en parlera sûrement. Il faut s'accrocher. Mais en fait, une fois qu'on est rentré dedans, je trouve qu'il est assez prenant. Il y a des beaux décors, encore une fois, une belle immersion, une belle photographie. Et puis, bon, on parlera de Thelma et Louise après, mais il est là, mon film féministe, avec une Sigourney Weaver qui est incroyable et qui n'était pas supposée avoir le rôle-titre. Il me semble qu'à la base, ça devait être un homme. Et finalement, retournement de situation, et on a notre première femme rôle-titre dans un film de science-fiction horrifique.
C'est vrai, parce qu'elle a un rôle qui est puissant. Elle est troisième commandant du vaisseau, donc elle a un rôle de pouvoir. Et c'est vrai que c'est la tête d'affiche et la star du film.
Bah, c'est une des premières femmes fortes qui est retranscrite au cinéma, avec Sarah Connor pour Terminator et du coup Ellen Ripley pour Alien. Par rapport, par exemple, à Blade Runner où Rachel, elle est... Voilà.
Ouais.
Elle est pas comme...
Elle critique pas trop Rachel.
Non, mais elle est pas comme Ellen Ripley. Ellen Ripley, en fait, elle est badass, quoi. Simplement, enfin, j'ai pas d'autres mots. Enfin, elle est badass... on voit en fait, on a très bien vu que du coup une femme peut très bien tenir un rôle titre sans souci, que ce soit une saga d'horreur, de science-fiction, sans souci quoi, sans souci.
Oui, après effectivement c'est un film qui est lent, il faut s'accrocher, c'est un huis clos dramatique. Pour ceux qui connaissent les Agatha Christie, moi j'ai trouvé que ça rappelait un peu le thème de narration quoi, tout le monde est enfermé. On sait qu'il y a quelque chose qui ne veut pas que du bien.
Il était beaucoup comparé à Dix Petits Nègres.
Ouais.
Dans le fait que, bon, on ne va pas tout spoiler, mais que les personnages tombent comme des mouches.
C'est ça. Il y a quelque chose qui ne veut pas que du bien. On ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop ce que c'est. Et on tombe un par un jusqu'au dernier. Quoi.
Bah, moi, je ne connais pas trop du coup Agatha Christie. Mais quand j'ai vu ce film, en fait, ça m'a vachement fait penser. Enfin, du coup, c'est surtout Alien qui a retranscrit les codes. Bah, un peu des films d'horreur qu'on a pu voir après émerger dans les années 80-90. Donc, du coup, un huis clos. Un tueur qui est beaucoup plus fort que tout le groupe réuni et qu'en fait ils vont tomber comme un jeu d'échecs un par un.
Ouais,
exact. Et qu'en fait ils ont aucun moyen en fait. L'enjeu en fait de ce film c'est que bah ils sont coincés dans le vaisseau, ils peuvent pas retourner sur une autre planète parce que bah après l'alien ouais. va coloniser cette planète en question s'il y a des habitants. Le souci c'est qu'en fait le Nostromo, donc le vaisseau le vaisseau de la compagnie est beaucoup trop grand pour couvrir en fait toutes les issues. Et l'alien en fait c'est une espèce super intelligente et même s'il connaît pas du tout ce vaisseau en fait il va utiliser les conduits d'aération, il va utiliser le sous-sol, enfin voilà plein d'endroits en fait où eux ils peuvent pas tout couvrir parce qu'ils sont 7. Avec ça. L'alien ça fait du coup 8e passager, c'est d'où le titre du film. Et à 7 en fait ils vont pas pouvoir impossible ouais. de couvrir toutes exact. Les surfaces et du coup ils vont se faire décimer un par un.
Et ce qu'on disait, c'est que le titre, le huitième passager, je trouve, retranscrit bien ça. C'est l'intrus, d'ailleurs alien en anglais, ça veut dire l'étranger, quoi.
Ouais.
Mais c'est l'intrus en plus qui est là et qui va nous éradiquer, quoi.
Mais ils ont fait une très belle com' en plus, pardon. Parce que sur les affiches, il y avait la phrase qui est devenue culte, « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ».
Eh ben, j'allais le dire, justement. Ouais. C'était ça. Moi, ça m'a vachement accroché quand j'ai vu cette affiche de film française, voilà, comme l'a dit Jade. Moi, ça me fait tilter, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui va se passer, justement, dans l'espace, pourquoi personne ne veut nous entendre crier. Enfin, de toute façon, c'est un film d'horreur. Moi, je le considère comme un film d'horreur, Alien.
Ouais.
Le 2, le 3 et non, c'est des films d'action, mais le premier, c'est un film d'horreur.
Bah, c'est clair, c'est un film pas tant d'horreur, mais plus d'angoisse, je trouve. Il y a le climat qui est pesant, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, d'où, quand.
Bah, il le qualifie d'horrifique.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit très peu l'alien, en fait.
Ouais.
Il apparaît vraiment. Bah, en fait, pour des termes techniques, en fait, quand il est sorti en 79,
surtout ça.
C'était super compliqué pour. Du coup, c'était un acteur qui était avec des prothèses, et c'était super dur de se déplacer, à faire des mouvements de type prédateur.
Ouais.
Donc, du coup, ils ont vraiment essayer intelligemment de caler des plans en fait super flippants, super angoissants. Moi, je trouve que c'est bien réussi justement parce que sans le vouloir, en fait, ça va nous créer un espèce de mystère autour de l'alien. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, on ne sait pas combien de temps il fait pour se reproduire, enfin, plein de choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup.
Ça a été retranscrit aussi dans ceux qui ont vu le film pour Super 8. Le Super 8, il y a une bête aussi comme ça, et je crois qu'on a sur tout, les presque deux heures de film, on doit avoir une trentaine de secondes où on voit un peu la bête et le reste on le voit pas. Et là, effectivement, donc là c'était pour Super 8, non, c'est le scénario qui veut ça. Pour Alien, c'est une contrainte technique de l'époque, quoi.
C'est vrai.
Et pour on parlait des décors tout à l'heure, les décors de l'intérieur de Nostromo, je sais pas vous, mais ils m'ont rappelé les décors que j'avais vus d'un film qui est sorti deux ans avant, et l'intérieur du Faucon Millennium. Certains couloirs me font penser à l'intérieur du Faucon.
Bah, un vaisseau un peu délabré.
C'est ça.
Et ils avaient construit presque l'intégralité, il me semble, du vaisseau. En tout cas, la plupart des pièces sont reliées et c'était un vrai décor pour vraiment que les acteurs soient immergés et qu'il n'y ait pas de... En fait, que nous, en voyant le film, on ne se sente pas sortis de l'action.
Ouais.
Ils évoluaient vraiment dans huis clos, en fait.
Moi, j'ai une petite anecdote par rapport, du coup, aux acteurs. C'est quand, du coup, ils vont recevoir un signal d'une planète. Donc, ils vont, du coup, aller voir s'il y a une espèce vivante. Et du coup, ils vont tomber sur le vaisseau en forme d'arche avec, du coup, une personne qui est fossilisée depuis beaucoup de temps. Et en fait, pour créer ce décor-là, donc 79, c'est pas forcément, on peut pas forcément faire des décors grandioses et puis le manque de budget. C'est du coup, en fait, à la place de mettre les vrais acteurs, c'est en fait des enfants qui vont être qui vont avoir des costumes de cosmonautes. Et du coup, en fait, bah, le décor va paraître beaucoup plus grand.
Ouais.
On va les voir de dos, mais c'est une astuce tout con, mais en fait qui marche super bien. Moi, je l'ai pas vu.
C'est sûr.
J'ai découvert, du coup, en m'informant un peu sur ce film, et moi, j'ai pas vu du tout. Et je sais pas vous.
Mais...
Est-ce que je vous apprends quelque chose ?
Non, ouais, tu nous apprends quelque chose.
Bon, bah nickel. C'est le but.
J'espère que je vais vous donner aussi une envie de sortie pas très loin de Grenoble. Pour ceux qui ont aimé le film et qui ont envie de se faire un peu peur, vous avez le musée du cinéma et de la miniature à Lyon, où il y a la maquette qui a servi, pas dans le premier, mais dans le 2 ou le 3. À la reine alien. Et donc là, vous aurez vous pourrez visualiser mieux le monstre qu'on voit très peu dans le film. Donc c'est une idée de sortie tous ensemble, parce que c'est un musée qui est très bien fait. Je sais pas si vous l'avez fait vous déjà.
Ouais.
Mais c'est un musée qui est super. Il y a beaucoup d'objets de films, des films dont on a déjà parlé, des films dont on parlera. Et allez-y, franchement, courez-y. C'est que des pièces originales des films. Et donc vous avez une des pièces maîtresses du musée, c'est l'énorme alien qui est articulée aussi, qui est robotisée et qui fait froid dans le dos.
Ça, c'est dans la reine alien dans Aliens 2.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et moi, si je peux du coup pas parler forcément des acteurs, parce que oui, ils sont tous à peu près bons, mais moi, surtout, ce que j'ai envie de rendre, pas un hommage, on va dire, mais je sais pas comment expliquer, mais en fait, bah, du coup, les concepteurs de l'alien, donc Dan O'Bannon et Ronald Shusett, en fait, pour moi, l'alien, en fait, il a un design... magnifique, dans le sens où il est effrayant, mais à la fois il est élégant. En fait, dans sa forme, c'est des belles courbes et tout. Parce que oui, le thème d'Alien, bah, malheureusement, c'est le viol. C'est en fait, tout simple. Le facehugger qui va du coup pondre des œufs dans la gorge de ses victimes et qu'après derrière ils vont éclore un alien, bah c'est le thème du viol, quoi.
Ouais.
Il lui enfonce son appendice dans l'œsophage, enfin
c'est sûr.
Donc c'est pas marrant comme thème. Mais ça marche super bien dans le film, personnellement. Enfin, ça fait vachement peur, tu sais pas en fait d'où ça peut sortir, surtout dans les derniers films, parce que au tout début, en fait, c'était super simple, c'était un facehugger, un alien.
Ouais.
Il pond, il y a un alien du coup avec un autre derrière. Mais après, dans les derniers, ils sont partis. Enfin, dans le premier, on va pas en parler parce que franchement, il était nul. Mais on part après dans des délires. Enfin, on sait pas trop du coup comment sont faits les aliens.
C'est ça.
Je trouve pas. Enfin, ouais. J'ai pas.
Et puis visuellement, ils ont inventé aussi la double bouche, là, avec la grande langue, avec les crocs qui a été beaucoup repris. Et puis le facehugger qu'on revoit dans beaucoup d'univers de la pop culture qui a été repris. Notamment, par exemple, pour les épisodes des Simpsons d'Halloween, on le retrouve souvent. C'est un thème qui revient.
C'est vrai. Et moi, si je voudrais juste faire un petit hommage à mon papa, parce que du coup, c'est un de ses films préférés. Donc s'il m'écoute, il sera très content de voir ça. Il regarde régulièrement surtout les 4 premiers Aliens, qui sont tous bons en fait. Enfin, même s'il a, je crois, il a une préférence pour le 1 et le 2, donc Ridley Scott et James Cameron, il les aime tous. Donc voilà, je lui fais un petit coucou s'il m'écoute.
Et on l'embrasse du coup s'il nous écoute. Et on va pouvoir continuer avec le dernier film de notre sélection. On va se retrouver tout de suite après la bande originale qui s'appelle House of Hope. Et on se retrouve tout de suite sur RKS.
You and I.
vient d'écouter House of Hope, qui est une des chansons qu'on peut entendre dans Thelma et Louise, sortie en 1991 avec en rôle principaux Gina Davis et Suzanne Sarandon. Un film que j'ai trouvé assez long, mais qui est quand même le paroxysme du féminisme dont je parle depuis le début de l'émission, avec deux femmes de caractère et d'ailleurs deux actrices qui ont été nommées toutes les deux pour le meilleur rôle féminin aux Oscars. C'était la dernière fois que ça arrivait d'ailleurs. Un avis,
oui. Thelma et Louise, qui est pour moi en fait le film phare quand on parle de féministe et qui est d'ailleurs le réussi le mieux. Quand on voit maintenant les films à quoi ça ressemble, enfin quand on essaie de mettre la femme en avant, c'est pas forcément, enfin rien de macho dans ça, mais c'est pas forcément des bons films. Là Ridley Scott en fait, il nous sort un très bon film. Alors peut-être le moins bon de ce qu'on parle là. Enfin moi personnellement c'est celui que j'aime le moins sur les quatre. Je sais pas vous, moi
finalement le moins exceptionnel quoi.
C'est le plus simple en fait dans son scénario, dans la photographie, dans la musique. En fait c'est un bon film, mais il va pas casser des barres, mais il remplit le boulot. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film du coup c'est l'interprétation des deux actrices, donc de Gina Davis et Suzanne Sarandon, donc Thelma Dickinson et Louise Sawyer, qui pour moi en fait remplit totalement le rôle. On s'attache beaucoup à ce petit duo. Voir leur péripéties avancer. Ce que je peux un peu reprocher dans ce film, mais d'un côté je peux le contrer directement, c'est le fait qu'en fait les hommes sont montrés un peu comme le stéréotype du macho. Donc on a le speech du film, on a un violeur, on a un camionneur qui fait des blagues salaces, on a un type qui va séduire une femme après pour la voler, mais derrière on va avoir deux bons acteurs que j'ai beaucoup aimé dans ce film. C'est du coup c'est les deux qu'on va retrouver dans Reservoir Dogs, donc de la même année, un an plus tard. Donc Michael Madsen et Harvey Keitel, donc le premier qui joue le petit ami de Suzanne Sarandon, en fait, il l'aime, ça se voit qu'il l'aime, mais il sait pas comment s'y prendre, il s'y prend un peu comme un manche, mais d'un côté, voilà, on voit qu'il est plein d'envie, il va la rejoindre un peu à droite à gauche, et Harvey Keitel qui joue du coup l'inspecteur, enfin le flic qui est du coup... Et le seul qui veut vraiment que ça se passe bien dans tout ce qui est... Il est très pacifiste, il veut pas qu'ils aillent... Enfin, en prison, ils vont y aller, mais il veut pas qu'ils prennent une grosse peine, ils veulent pas qu'ils meurent. Enfin, voilà, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu celui qui va contrebalancer un peu l'histoire de... Voilà, les hommes, c'est un peu tous les mêmes. Là, du coup, non, on voit que c'est quelqu'un vraiment différent. Et d'ailleurs, c'est son premier rôle en tant que gentil dans tous les films qu'il a fait, et il remplit parfaitement le rôle. Kellyanne, analyse.
Et puis c'est un des premiers rôles de Brad Pitt aussi.
Ouais, le premier, le plus...
Développé.
Ouais, le plus développé qu'on voit exact. Le plus.
Oui, et puis il est aussi là pour montrer ses abdos. Bref. Mais effectivement, non, c'est un film qui parle d'émancipation, qui parle de prise de pouvoir personnel, mais pas que féministe en fait. Hein. On peut un peu tous s'y retrouver là-dedans. Je ne sais pas si c'est lié à l'époque, mais cette prise de pouvoir personnel, elle est un peu par défaut, quoi. Elles n'ont pas vraiment le choix parce qu'il se passe un point de départ qui est assez grave. C'est pas d'elle-même qui elle décide.
Le film débute sur Thelma, je vais essayer de ne pas les confondre, qui quand même claque la porte au nez de son mari en disant « je pars en week-end », sans lui laisser le choix.
Si, effectivement.
Ouais, mais en voyant son mari, c'est quelqu'un de très possessif... qui en fait l'enferme un petit peu,
de très macho aussi accessoirement. De très macho aussi accessoirement.
Oui, voilà, mais c'est pour ça en fait c'est compréhensif de la part de Thelma. Et du coup le on va dire le synopsis du titre du film pardon, ça va être du coup Thelma et Louise qui veulent faire une virée un week-end parce que ils en ont un peu marre de leur petite vie monotone, et sur la route ils vont rencontrer un homme qui va vouloir violer Thelma, et Louise va tuer ce violeur, et du coup ça va parler d'une évasion. Voilà, ça va être ça le speech du film. Donc l'évasion en fait, la liberté, la quête de la liberté de ces deux jeunes femmes, et qui finit avec une fin grandiose, quoi.
Ouais.
Sur une des scènes classiques du cinéma hollywoodien.
Ouais, on a tous pour ceux qui l'ont en tête la scène
Marvin.
Arrête-toi
là.
On va pas la spoiler.
Mais oui, c'est une quête de liberté et qui va être liberté vis-à-vis de la loi, qui va être une liberté aussi personnelle. Et effectivement, là-dessus, c'est un film qui est vraiment avant-gardiste et très féministe de ce point de vue-là.
Ouais. Donc on pourrait classer ça dans un coin drame, un peu.
Ouais.
Moi, j'avais dit un peu aussi, enfin, j'en avais parlé un peu avant l'émission avec Kélian, c'est un peu, ça me fait penser un peu à, il reprend un peu les codes des westerns, donc que ce soit en fait au niveau des musiques composées pour aussi Hans Zimmer au cas où, et le fait qu'en fait les paysages, on est sur un paysage désertique, il y a toujours des comment dire, ils vont avancer en fait dans sur la route et à chaque fois ils vont croiser des ennemis, on va appeler ça comme ça. Et il va y avoir toujours des petits échanges. Ce que je peux reprocher au film, par contre, c'est sa longueur. Il dure 2 heures et quelques, mais il y a une partie qui est... Bah, en fait, la partie avec Brad Pitt, je trouve ça assez long, en fait. C'était pas forcément obligatoire que ça dure aussi longtemps. Moi, ça m'a un peu sorti du film.
Ouais. Et pour le caractériser, moi, je trouve que ce qui le caractérise le mieux, c'est un road movie, quoi.
Ah oui, c'est un road movie, totalement.
Elle passe le film sur la route à vouloir descendre jusqu'au Mexique.
Et notons, on l'a pas dit, que le scénario n'est pas de Riley Scott, mais de Kali Khoury. Donc c'est un scénario écrit par une femme, et ça se sent.
Et c'est important.
Ouais.
Je pense que ça a été important.
Et ça a été important,
et oui, pour le sujet. Et qui a été assez mal reçu, parce que c'était très polémique à l'époque de voir des femmes réagir à la violence des hommes.
Bah, personne ne voulait réaliser ce film de base. C'est Riley Scott qui s'est collé à la tâche, mais de base, c'est quoi déjà le nom de...
Kali Khoury.
Kali Khoury, du coup, qui avait écrit ce scénario. Bah, personne, en fait, voulait le produire. Parce qu'en fait ils avaient peur de la réaction des hommes, quoi.
Bah, c'est sûr.
Et d'ailleurs il y a eu une mauvaise critique au début, mais maintenant il a acquis le titre de bon film. Et
je pense que c'est un film qu'on redécouvre maintenant avec tout ce qui se passe
avec l'actualité, qui... je pense que c'est super important, ce genre de film.
Ouais, et je pense que c'est un film qui est important maintenant, qui va peut-être faire date, mais maintenant.
On va dire que c'est un des premiers films où du coup les femmes prennent les armes contre les hommes.
Les femmes s'émancipent.
Exact. Voilà, en quête de liberté, c'est très beau.
On a beaucoup parlé d'émancipation aujourd'hui. Hein.
C'est vrai.
Contre Blade Runner, le pouvoir.
Et j'ai aussi beaucoup l'impression qu'on est souvent venu chercher Riley Scott sur des projets un peu casse-gueule en disant bon, on va voir s'il peut en faire quelque chose, et finalement ça marche. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Pas souvent.
Il me semble sur Alien déjà, qu'ils sont allés le chercher.
Alors ça, je ne sais plus du tout. Ça, franchement, là, tu mets une colle.
Par contre, il a eu l'audace de sortir de ses registres à chaque fois, parce qu'on fait des péplums, on fait des huis clos, on fait des science-fiction, on fait des road movie.
Ouais, on a vu des choses très différentes.
C'est des choses qui sont très différentes.
Et je pense
qu'il y a
énormément de personnes qui ne sont pas au courant que les 4 films ont été réalisés par la même personne.
Ouais,
moi, la première.
C'est vrai.
Parce que quand on regarde, par exemple, sur l'épisode de Tarantino qu'on a fait, c'est des films qui, entre guillemets...
ils ont tous le même cachet, surtout.
C'est ça. Là, c'est pas du tout le même registre, et... quand on regarde un Alien ou un Thelma et Louise, avant de se dire que c'est le même réalisateur derrière, il faut aller creuser, quoi.
Pour en finir, on va se faire un petit top sur les top 4, quoi. Kélian, on commence.
Les classer, les 4 ?
Ouais, vas-y, commence.
Bah, Gladiator, forcément, devant. Je mettrais peut-être Alien en 2. Ensuite, Blade Runner et Thelma et Louise après. C'est pas faire l'avocat du diable, mais c'est les thèmes de Thelma et Louise sont intéressants, mais le film est trop lent, je trouve.
Ok. Jeanne.
Moi, je mettrais Blade Runner, Alien, Gladiator et Thelma et Louise. Mais c'est interchangeable, les deux derniers. Ça dépend de l'humeur.
Moi, du coup, ça serait Blade Runner, Gladiator, Alien et Thelma et Louise.
Ok. Le pauvre Thelma et Louise qui finit dernier.
Mais c'est vrai qu'on l'a encensé. Ouais,
mais... Non, mais qui est quand même un bon film. Enfin, je suis désolé. En fait, c'est juste que les trois autres.
La compétition
autres,
était rude.
Voilà, les trois, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Mais Thelma et Louise, il est super, quoi. C'est un super film, donc moi je l'aime beaucoup. Après, c'est clair que c'est pas un de mes films préférés, mais je le regarderai sans souci une deuxième, une troisième fois avec grand plaisir, quoi.
Ouais, clairement, tout à fait. Donc c'est sur ce classement qu'on va terminer pour aujourd'hui. Marvin, qu'est-ce qu'on prépare pour la semaine prochaine?
Alors, la semaine prochaine, on va parler de la trilogie Cornetto, donc réalisée par Edgar Wright, donc avec Shaun of the Dead, si vous ne l'avez pas vu, Hot Fuzz et la dernière pub avant la fin du monde. Donc les deux premiers sont disponibles sur Netflix, donc on vous invite à les regarder. Et après, bah, le troisième, vous démerdez. Hein.
On vous invite à ne
à
rien
ne pas,
faire
à
d'illégal.
À ne pas télécharger, non,
oui,
absolument
ne
pas.
Ne faites pas de pirate, mais bon, si vous n'avez pas le choix, on sait comment ça termine. Donc, on se prépare ça pour la semaine prochaine. On vous retrouve, on espère vous retrouver nombreux. Et on va terminer comme ça. Est-ce que vous avez bien aimé les enfants aujourd'hui ?
C'était bon.
Bah, ça fait plaisir de voir des films de genres différents et de sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude.
Exactement, ça fait plaisir. Et de parler de différentes choses sur un seul épisode. Vous pourrez, si l'épisode vous a plu ou avez envie de voir les autres, tous les épisodes sont disponibles en podcast sur le site internet de la radio ou l'application radio-rks.fr. Et si les musiques vous ont plu, vous pouvez retrouver la playlist de l'émission sur la page YouTube de RKS, donc toujours radio-rks.fr, avec aussi les playlists de toutes les autres émissions et des petits bonus à chaque fois. On se retrouve à la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Salut.
Salut tout le monde.
I am your father.
On ne laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.